Je n'ai pas bien dormi hier soir, parce que des fois, quand je suis en retraite, je subis ce qu'on appelle en anglais le retreat high. Le high de retraite. Ouais. Alors ça, c'est un boni. Et la raison pourquoi cette retraite a été particulièrement high pour moi, c'était que hier, après la relaxation totale, au lieu de faire comme on vous suggère de faire, c'est-à-dire marcher dans le noble silence, rentrer tranquillement dans votre lit pour continuer la relaxation totale et vous endormir paisiblement, etc. Mais on s'est réunis. Alors, on a eu une petite réunion dans la petite chapelle pour ne pas vous déranger. J'ai pu voir mes anciens amis, mes très chers amis. Et c'était aussi une première fois qu'on avait la chance de se rencontrer ici, tout le groupe en entier. Ça m'a rempli le cœur et ça m'a donné ce high qui m'a empêché. C'est pas empêché, mais qui m'a tenu éveillé, réveillé pendant une longue partie de la soirée. C'est ça mon expérience. Bonne journée, bonjour. Je ne sais pas, je n'ai pas pu assister non plus aux rencontres des familles et je m'excuse pour les nouveaux parce que d'habitude, on commence avec une orientation et des instructions très précises sur comment respirer, comment marcher, comment manger, puis tout ça. Alors, j'espère, je souhaite que vous pourrez juste suivre l'exemple de nos bons amis. Les amis qu'on a rencontrés hier et que j'avais dit qu'ils me sont très chers sont les membres de l'ordre de l'Inter-Être et les aspirants et qui forment la base de pratique et de spiritualité de notre maison de pleine conscience et d'institut. Alors, ils sont un peu partout, et ce sont des cloches silencieuses qui marchent et qui modèlent la pratique. Et je pense que si vous pouvez juste les regarder, être avec ces personnes-là, leur pratique et leur énergie vont rayonner, vont radier et vont vous toucher. Et c'est encore beaucoup mieux que ce que je pourrais passer du temps à vous parler. Alors regardez-les et faites comme eux, et ça devrait être parfait. Vous voulez vous lever, s'il vous plaît, pour qu'on vous reconnaisse? Ok, donc c'est juste pour vous présenter à mes amis d'hier. C'est une occasion tellement rare, c'est une occasion que je ne sais pas quand elle va se répéter, parce que je vais partir mercredi pour la suite de ma tournée américaine. Et après ça, je vais faire mon snowbird jusqu'au mois d'avril. Alors le plus tôt que je pourrai les revoir, ce sera au mois d'avril. Et d'ici le mois d'avril, ou depuis le mois d'avril dernier jusqu'à aujourd'hui, c'était la première fois qu'on se revoyait. Jusqu'au mois d'avril prochain, je voudrais prendre cette occasion si rare pour un peu faire le point de notre programme d'études. Et c'est pour ça que je me suis excusé auprès de vous, les nouveaux, parce que la retraite va être un peu plus chargé, heavy que d'habitude en termes d'études et de compréhension. Alors je ne sais pas si vous allez trouver ça trop heavy ou bien si vous allez trouver ça, mais c'est un bonus qui n'est pas inclus dans le prix de votre. Alors vous allez pouvoir profiter de l'enseignement ou bien des partages que je veux faire personnellement à mes amis que je n'ai pas eu la chance de voir assez souvent et que malheureusement je n'aurai pas la chance de pouvoir voir aussi souvent que je le voudrais. Le contact que je garde avec l'Amérique pendant que je voyage, c'est en travers d'un programme qu'on appelle eTalk. Oui, eTalk GoToMeeting en français. Et donc, les amis qui y participent, je les vois et je les rencontre une heure par mois. Alors, ceux qui ne peuvent pas, je veux essayer de nous donner un background commun pour que lorsque je vais nous revoir en mois d'avril, qu'on ne soit pas complètement perdu et disconnecté. Alors, donc ce serait un condensé de ce que je vais essayer de faire pour notre programme de l'année. Donc hier, j'avais parlé de notre pratique ou bien du motto de notre pratique qui est contenu dans l'enseignement de la meilleure façon de vivre seul. Que Lily a si bien résumé dans son cours exposé, discours de l'instant présent. On n'a pas d'autre couleur. La meilleure façon de vivre seul, il y a un petit poème qui enseigne que le passé n'est plus et que le futur n'est pas encore là. Que le seul instant qui nous est donné, c'est l'instant présent. Et que le vrai pratiquant, le pratiquant, sait comment demeurer dans l'instant présent et vivre chaque instant. Et c'est cela le cœur de notre pratique. C'est comment rester dans l'instant présent parce qu'on sait que l'instant présent est le seul instant qui nous est donné pour vivre. Lorsqu'on est dans le passé, on n'est pas en train de vivre. Lorsqu'on est dans le futur non plus, on est perdu dans nos pensées, dans nos regrets, dans nos peurs, dans nos etc. Alors cet enseignement nous fait réaliser comment nous pouvons, par la force de notre esprit, être transportés dans le futur ou dans le passé et manquer notre rendez-vous avec la vie qui se passe dans l'instant présent. Alors toute notre pratique consiste à revenir constamment, ici et maintenant, ici, dans l'instant, maintenant, tout de suite. Et à chaque respiration, c'est une pratique, c'est un rappel de revenir chez soi. J'inspire, j'expire. Et c'est ça l'enseignement. Dans ce sutra, il y a une phrase qui me frappe particulièrement. N'attendez pas à demain. Do not wait until tomorrow. Demain, ce sera trop tard. La mort frappe inopinément et on ne peut pas négocier avec la mort. Alors, cette phrase est un rappel, et un rappel de notre impermanence, est un rappel que le jour, que l'instant présent est précieux et qu'il va passer. Et lorsqu'il l'aura passé, qu'on ne pourra plus le reprendre. Et le temps qui passe nous amène vers cette destination vers laquelle on est entraîné et qu'on ne peut jamais éviter. Alors, do not wait until tomorrow, it will be too late. La mort peut frapper à n'importe quel instant et on ne peut pas négocier avec elle. Je vous avais parlé de notre cours de langue. Alors, ça c'est une traduction. L'enseignement original, c'est Trista Dharma Sukha Vihari. En anglais, Dwelling Happily in the Present Moment. Et c'est notre idéal de pratique. Nous voulons faire de chaque instant un instant de bonheur. Nous voulons faire de chaque instant un instant où nous vivons réellement, où nous sommes en vie, où nous sommes en contact, où nous sommes en contact avec tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Et tout ce qui est, qu'il y a de plus merveilleux est toujours en train de se passer dans l'instant présent. Dans le passé, il n'existe plus. Une chanson qui me revient en cette saison, les feuilles mortes. En ce temps, le soleil était plus brûlant. C'est peut-être vrai, mais le soleil, il est aujourd'hui, maintenant, là. Pourquoi revenir au soleil qui était brûlant il y a 20 ans? Il est parti. Pourquoi essayer de revenir à quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans et manquer ce qui est en train de se passer maintenant? Parce que maintenant, les mêmes miracles sont en train de se passer. Et si on est pris avec le soleil d'il y a 20 ans, on manque tout ce qu'il y a aujourd'hui. Le miracle de l'instant présent, c'est cela. Trista Sukha Vihari. Revenir chez nous, ici, maintenant. C'est notre pratique. Et lorsqu'on revient à l'instant présent, on est en contact avec tout ce qui est en train de se passer, en nous et autour de nous. Et lorsqu'on est en contact, avec quoi on est en contact? Lorsqu'on est disponible, lorsqu'on est présent, lorsqu'on est ouvert, on est en contact avec tous les miracles qui sont en train de se passer. Le miracle de l'instant présent. Le miracle de pouvoir être encore en bonne santé, assis sur un coussin. Le miracle d'être dans une place qui est bien chauffée alors qu'il fait froid dehors. Le miracle, c'est de pouvoir respirer. Le miracle, c'est de pouvoir chanter. Le miracle, etc. Et la liste, elle est infinie. Mais si on se laisse prendre par nos craintes, si on se laisse prendre par nos désirs, si on se laisse prendre par nos craintes et nos peurs, tous ces miracles sont là pour rien. Et c'est comme si ils ne sont pas là. Et on se laisse emporter par nos regrets, on se laisse emporter par nos peurs, on se laisse entraîner par nos désirs, et on manque tous les miracles qui sont là. Jusqu'au jour où on les perdra. Le soleil, il était brûlant, mais on n'était même pas là. Parce que si on ne peut pas être ici maintenant, il y avait 20 ans, on n'était pas là non plus. Alors ce qu'on pense qui était brûlant, c'était seulement une fantaisie et un rêve. Alors l'invitation que mon maître nous fait, et c'est ça son illumination. Mon maître a enseigné le bouddhisme depuis qu'il a 20 ans. Il a eu un éveil lorsque sa mère était décédée. Et lorsqu'il a écrit un premier livre qui s'appelle « Une rose pour votre boutonnière ». Et lorsqu'il a eu la nouvelle que sa mère était décédée, c'est là qu'il a réalisé, qu'il a compris que l'enseignement du Bouddha consiste à Trista Dharma Sukha Vihari. Et c'était sa révélation. Et c'est ça son enseignement. Et il a toujours enseigné autour de ce principe que le miracle, que le bonheur, c'est ici et maintenant. Et qu'il n'y a pas de voie vers le bonheur, que le bonheur, c'est la voie. Alors, lorsqu'on vous demande c'est quoi le bouddhisme, la réponse est très simple. C'est l'enseignement sur le bonheur. Pas comme une voie, pas comme le bonheur comme la façon, le bonheur comme la vie, le bonheur comme la méthode, le bonheur comme je ne sais plus. En anglais, there's no way to happiness, happiness is the way. Ça va? Maintenant, c'est très facile à dire ce que je viens de dire. Ça ne veut pas dire que je le vis. Et ça ne veut pas dire que... Ok. C'est ce que j'essaie de me souvenir. Et lorsque je suis avec vous en retraite, là, je dois m'en souvenir. Et ce que je viens d'inviter mes amis à faire pour vous, c'est de se souvenir de cette pratique que nous faisons, afin que vous puissiez, vous aussi, la regarder à l'œuvre et la faire avec nous pour nous aider dans cette démarche. Donc ce que je viens de dire, c'est peut-être différent de ce que vous avez pu entendre sur l'enseignement du Bouddha. Et vous n'aurez pas tort. Parce que le premier enseignement du Bouddha et le dernier enseignement du Bouddha, c'était les quatre nobles vérités. Et la première noble vérité qui a été enseignée par le Bouddha était... Donc la première vérité, la souffrance. La souffrance existe. Et dans notre traduction, on appelle cela la première noble vérité. Et ce qui est important, c'est le mot noble. Alors, c'est quoi ces souffrances dont on parle, ou c'est quoi ces souffrances que nous vivons? Quand Thay nous a enseigné les quatre nobles vérités dans une retraite de 21 jours, dont la transcription a été éditée dans un livre qui s'appelle The Heart of the Buddha's Teaching. Thay a commencé la retraite en nous invitant à revenir chez nous et à ouvrir notre cœur et à nous poser la question que je vous ai posée lorsque vous avez écrit vos réflexions pré-retraite. Quelles sont mes vraies souffrances? De quoi suis-je en train de souffrir? Et c'est pour ça que je vous ai invité à réfléchir pour répondre au questionnaire pré-retraite. Mais ce n'est pas une réponse que vous avez à faire pour la retraite. C'est une question que vous pouvez, que vous devriez toujours vous poser. Et Thay a été très spécifique. Les enseignements du Bouddha ou le bouddhisme est bouddhique seulement lorsque ça s'applique à notre propre souffrance. Ce n'est pas des théories pour apprendre et pour parler. Ce sont des remèdes et des remèdes qui ne peuvent s'appliquer qu'à notre propre souffrance. Alors pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir profiter de cet enseignement, il faut commencer avec la souffrance. Si on n'a pas de souffrance, on n'a pas besoin de bouddhisme. Ça servirait à quoi? Parce que l'enseignement du Bouddha a été donné, a été prescrit pour nous aider à transcender, à sortir de notre souffrance. De notre souffrance, de notre propre souffrance. Alors la première question, est-ce que je souffre? Si je ne souffre pas, je vais jouer dehors. Si je souffre, de quoi est-ce que je souffre? Et lorsque je sais, ou bien lorsque c'est très difficile à savoir, c'est une question qui semble simple, mais c'est une question continue. Parce que tout ce qu'on peut savoir, tout ce qu'on peut répondre aujourd'hui, maintenant, tout de suite, c'est ce que ça nous fait. C'est ce qu'on ressent maintenant. C'est une question de feeling. Feeling agréable, feeling désagréable, sensation agréable, sensation désagréable, désagréable, je souffre, agréable, je suis heureux. Et on pense que lorsqu'on aura fini avec ces sensations, que la souffrance ne sera plus. Et c'est là notre première erreur. Alors donc, parmi les souffrances que le Bouddha a énumérées, il y a quatre grandes souffrances, les quatre premières. Les quatre premières sont la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. D'être séparé de ceux que nous aimons. Devoir être avec ceux que nous n'aimons pas. Ne pas avoir ce dont nous souhaitons. C'est quoi le huitième? Le dernier, je ne sais pas comment le traduire. Ça fait partie de la maladie. Il y a un huitième qui va me revenir. Mais ça, c'est le Bouddha qui l'a énuméré. C'est une méditation, cette question. Et ce que Thay nous demande, nous a suggéré de faire aussi, c'est d'ouvrir notre cœur au Bouddha. Lorsqu'on va chez le médecin, lorsqu'on va chez notre psychiatre, on peut lui raconter n'importe quoi, puis il va nous croire, puis il va entendre. Mais le diagnostic qu'il va poser dépend de notre ouverture de cœur, dépend de notre honnêteté envers nous-mêmes. Et cette conversation, cette méditation, c'est seulement nous avec nous. Et c'est une conversation qui n'est pas facile, mais elle doit commencer là. Ok, donc, dukkha, il y a les grandes souffrances, les 8 grandes souffrances dont je vous ai pu nommer seulement 7, la 8e à venir. Le 2e niveau de souffrance qui est inclus dans ces 8, c'est les souffrances qu'on ne sait pas, qui sont souffrances. Avez-vous déjà vécu cela? Ce que vous pensez qui était bonheur et qui était en fait souffrance. Non? Exemple. Gagner la loto. Wow! Regardez ce que les statistiques disent. Avoir une augmentation de salaire. Ça dure 3 jours. Obtenir un numéro de téléphone et un premier rendez-vous. Wow! Non, 10 ans après, tu perds la moitié de ta fortune. Alors ça, c'est la 2e sorte de souffrance. Recevoir un enfant dans tes bras, c'est un grand bonheur qui dure toute une vie, jusqu'à ce que la vie vienne de reprendre. Donc ça, c'est la 2e sorte de souffrance, des souffrances qu'on ne connaît pas, parce qu'on est innocent. Et la 3e sorte de souffrance, c'est que nous sommes les 5 agrégats. Je ne sais pas si c'est les 8 grandes ou les 8 capitales ou les 8 principales, mais en tout cas, la 2e sorte, je ne sais pas comment on les appelle. Simili, on pourra revenir à ça éventuellement. Et je vous ai parlé de la nobilité, de la noblesse de la souffrance, selon l'enseignement du Bouddha. Pourquoi est-ce qu'on appelle cette vérité une noble vérité? Parce que c'est le début d'un cheminement qui va nous permettre de pouvoir sortir de la souffrance, afin de pouvoir réaliser cette pratique à laquelle on aspire, afin que chaque instant puisse être un instant de bonheur, afin que chaque instant puisse être le début d'un autre instant heureux et se poursuivre avec d'autres instants heureux. Alors, selon l'enseignement du Bouddha, ou bien selon son premier enseignement, c'était très simple. Cette souffrance n'est pas une punition. N'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est en haut et qui ne nous aime pas puis qui nous punit. Ce n'est pas ça. Ou bien ça peut être ça. Mais s'il le fait, c'est qu'il le fait avec raison. C'est qu'il y a des causes à cela. Ce n'est pas une loterie. Il y a des causes qui ont nourri, qui ont causé cette souffrance. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque ces causes sont enlevées, lorsque nous enlevons ces causes, la souffrance disparaît. Là, je passe très vite. Mais je voudrais revenir un peu. Cette première question, si nous n'avons pas la bonne réponse, la 2e ne pourra pas l'être, et encore moins la 3e. Si on a fait le travail comme il faut pour la première, la 2e et la 3e sont évidentes. Alors donc, le Bouddha est très compatissant et nous montre le pas à pas. Et dans ma nature humaine, je veux toujours arriver avant de partir. Et je manque souvent le bateau. Alors donc, il y a des causes à la souffrance que nous avons identifiée. Et si nous savons, nous en connaissons les causes, nous pouvons aussi comprendre que lorsque ces causes sont removed, cette souffrance ne pourra exister, disparaît. Et la quatrième noble vérité, c'est l'enseignement du Bouddha. Et comment? Le guide de pratique, comment faire? Quoi faire? Comment faire pour pouvoir enlever les causes de nos souffrances afin que la souffrance ne soit plus? Il y a des enseignements, il y a des pratiques que lorsque nous les comprenons, que lorsque nous les appliquons diligemment, nous pouvons enlever les causes de notre souffrance. Et notre souffrance s'évapore, disparaît. C'est la transformation de dukkha en sukha. C'est ça. Donc, l'ignorance et l'enseignement du Bouddha. Et l'enseignement du Bouddha, c'est, je me répète, selon ma compréhension, ce sont des pratiques qui ne peuvent avoir leur effet que lorsque nous les pratiquons. On peut les lire, on peut les répéter, on peut les chanter. Toute notre vie, ça ne changera rien si nous ne les mettons pas en pratique. Nous pouvons lire des livres de diététique, mais si nous ne changeons pas notre alimentation, ils ne servent absolument à rien. On peut lire des menus gastronomiques, on peut lire des recettes, mais si on ne se donne pas la peine d'aller au marché et en faire un plat, il n'y aura rien qui pourra nous alimenter. On peut lire toutes sortes de livres sur les arts martiaux ou sur la danse latine. Si on ne pratique pas diligemment, on ne sera jamais un danseur de danse latine. Il est parti. Et c'est la même chose pour le bouddhisme. En fait, c'est pire pour le bouddhisme parce que c'est beaucoup plus compliqué que les exemples que je vous ai donnés. Et en quoi consistent ces pratiques? Vous le savez, je l'ai déjà enseigné. Les 37 pratiques qui peuvent nous supporter et nous aider à transcender et diminuer les causes de notre souffrance afin de pouvoir sortir de notre souffrance. Et c'était un résumé des 4 nobles vérités. Les 4 nobles vérités que vous pouvez apprendre à partir de ce livre. Et ce livre est un livre de base pour nous. Tous les OI, aspirants OI et les Dhammacharya sont invités à le connaître par cœur et à pouvoir l'enseigner sur le tas. Dans le temps, avant l'enseignement du cœur du Bouddha, Thay a demandé et a enseigné aux OI, aspirants OI, les 100 numéros. Les 100 numéros du bouddhisme. Fabso Kangbang. Et c'est cela que nous avons voulu offrir cet automne avec Dhammacharya Chöngo d'Ottawa. Alors je suis surpris, étonné, déçu qu'il n'y ait pas plus d'inscriptions et qu'il a dû canceller le cours. Mais c'est un cours qui est basé sur les 4 nobles vérités, sur les 100 numéros, dont le 4 est un des 100 numéros. Donc, si vous aviez, si vous vous étiez inscrit à ce cours-là, vous auriez compris où, après les quatre nobles vérités et les 37 façons, méthodes, la Bami Bai Fam Tadao. Qui connaît les 37? C'est très facile à deviner. Il y a les quatre nobles vérités, mais ça, ça ne fait pas partie de ces 37. Mais les quatre établissements de la pleine conscience sont les premiers quatre des 37. The Four Establishments of Mindfulness. Et encore là, avec mon français déformé, je n'aime pas la traduction établissement. Je pense que c'est mieux fondement ou fondation que établissement. C'est pour ça que je pense que c'est mieux de revenir avec Satipatthana. Les quatre établissements de la pleine conscience ou les quatre fondations de la pleine conscience sont la base de toutes les pratiques zen bouddhistes. Vous pouvez aller partout en Asie. Vous parlez de Satipatthana ou bien vous les regardez. Puis vous voyez qu'ils sont en train de marcher le Satipatthana, qu'ils sont en train de respirer le Satipatthana, qu'ils sont en train de manger le Satipatthana. Et c'est merveilleux. On n'a pas besoin de parler. On peut juste être assis là, on les regarde, et parce qu'on connaît déjà, parce qu'on a déjà appris, on le voit se manifester. Et ça s'appelle « walking Dharma », l'enseignement vivre. Et c'est cela aussi que j'ai invité mes amis à vous montrer, à vous modeler. Cet enseignement est un enseignement qui peut nous aider à enlever les sources de notre souffrance, à revenir dans l'instant et à en faire un instant de miracle. Pas en parlant, en le vivant. Et je suis très fier de vous le dire. Regardez-nous. Parce que j'ai pu le voir en Asie, parce que j'ai pu le voir dans les moines qui marchaient dans les rues, parce que je peux le voir quand mon maître marche. Et comme ses élèves, nous voulons apprendre cela de lui, et non pas juste ses livres. Les quatre fondements de la pleine conscience. Le premier fondement, la pleine conscience du corps, dans le corps. Et la pleine conscience du corps, dans le corps, commence par la respiration. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Et c'est la première leçon des 20 leçons. Des quatre fondations de la pleine conscience. Alors nous avons appris, nous l'avons pratiqué et nous continuons de pratiquer. Et je nous souhaite de ne jamais oublier de respirer. Ça peut être dangereux pour votre santé. Nous apprenons les parties du corps. Lorsque nous pratiquons ce que nous appelons la relaxation totale, ou lorsque nous pratiquons le body scan. Alors, hier, Madame Jung nous a guidés un peu à regarder notre corps, à observer notre cœur, et ça fait partie de la pratique du premier fondement de la pleine conscience. Et l'observation du corps. Nous observons notre corps et nous mettons notre attention et nous revenons à chaque partie de notre corps. Et c'était l'année dernière, il y a 2 ans, quand on a appris les quatre fondements de la pleine conscience, j'avais beaucoup insisté sur le premier fondement qui était le corps. Parce que le corps, c'est notre maison. Et lorsque je voyage comme je suis en train de le faire. Je suis très content d'avoir cette maison qui est toujours là, partout où je vais. Et c'est bon de revenir afin de pouvoir être avec, de pouvoir l'apprécier, de pouvoir en être reconnaissant. Et c'est pour ça que nous vous invitons pendant la retraite à faire des mindful movements, des exercices dans la pleine conscience, à marcher dans la nature et tout ça. Ça fait partie de la pratique du corps aussi. Il y a les positions et les mouvements du corps qui font partie des deux poèmes que je vous ai partagés hier. Di Đức Nam Ngồi Tâm Chánh Niệm, debout en marchant, couché ou assis, continuellement dans la pleine conscience. Vào ra, cười nói, tướng đoan nghiêm. Em nhớ hay không? Entrer et sortir. Entrer où? Et sortir de où? Entrer dans l'oubli. Ou entrer dans la pleine conscience. La porte est toujours là. Et lorsque nous pouvons entrer dans la pleine conscience ou sortir de l'oubli, nous avons une attitude, une posture qui est belle et noble. Alors, il s'agit de pratiquer les 39 de manière raffinée. C'est l'entraînement des monastiques, les 39 de manière raffinée. Mais ils n'ont rien que nous n'avons pas. Nous avons aussi deux pieds, nous avons aussi deux jambes, nous avons une tête, nous avons des mains. Il n'y a rien qui nous défend ou bien qui nous empêche de pouvoir être beau, belle, élégant, raffiné, comme les monastiques le sont. Alors c'est pour ça que Thay les a publiés pour notre usage. Parce que dans le temps, c'était réservé aux monastiques. Pourquoi? Pour faire une classe supérieure. De la même façon que la famille royale a éduqué notre princesse Grace. C'est quoi son nom? C'est celle qui est en train d'être enceinte. Kate? Kate? Pensez-vous qu'elle est devenue une princesse juste comme ça? Non. Ils l'ont entraînée, ils l'ont modelée. La façon dont elle s'habille maintenant, la façon dont elle marche, la façon dont elle parle, n'est pas très différente des 39 manières affinées. Regardez-la pendant un match de tennis à Wimbledon. Est-ce que vous la voyez comme ça? Jamais. Oui, mais vous ne pouvez pas regarder le tennis comme ça. Non, ok. Alors donc, il y a les 39 manières affinées que vous pourrez également regarder pour voir lesquelles vous plairaient. Il y a aussi les quatre grands éléments. Lorsque nous sommes dans notre corps, nous pouvons y voir les quatre grands éléments qui sont l'eau, la terre, le vent, le feu. Les quatre grands éléments. Et il y a un petit poème qui nous le rappelle. C'est le Gatha du miroir. Lorsque je me regarde dans les miroirs, je vois les quatre grands éléments. Et il n'y a rien de plus beau qu'un cœur ouvert et aimant. N'est-ce pas merveilleux? Chaque fois qu'on se regarde dans les miroirs, pouvoir se le répéter. Le miroir de la pleine conscience, ma pleine conscience, un miroir, me reflète les quatre grands éléments. Je vois que je fais partie de l'univers tout entier. Je vois que je suis une partie de cette rivière qui coule. Je sais que le vent qui amène l'air que j'inspire et que j'expire a été déjà passé par les poumons du Seigneur Jésus. Il a respiré le même air que nous sommes en train de respirer. Je n'ose pas parler de l'eau que nous buvons, ni des sources d'où ça peut provenir. Et c'est pour ça que nous apprenons que nous faisons partie de tout ce qui est, que nous avons toujours été là et que nous ne mourrons jamais. Donc les quatre grands éléments nous enseignent sur notre nature impermanente et nous enseignent aussi sur notre nature interdépendante. Et lorsque nous pouvons comprendre, il revient à la notion de compréhension des enseignements du Bouddha dont on a parlé hier. Comprendre notre nature interdépendante et impermanente nous permet de pouvoir réaliser. Et c'est un autre mot que je n'aime pas. Réaliser, comprendre les enseignements et la sagesse des enseignements du Bouddha. Et ces deux choses-là s'appellent les clés du bouddhisme, ou les trois sceaux du dharma. Et ce sont les clés qui nous permettent de pouvoir nous libérer des conditions de notre souffrance. Et tous les enseignements du Bouddha, tous ces 37 façons de faire, nous permettent de pouvoir l'atteindre. Je vous ai parlé d'une partie de la première des quatre fondations. Si nous la pratiquons comme il faut, ça peut nous permettre de pouvoir utiliser les clés de l'impermanence et de l'interdépendance pour ouvrir la porte du nirvana et sortir de notre condition de samsara, de souffrance et de la mort. Dans les 37, on peut les étudier, les apprendre. Prenez-en une. Faites-la jusqu'au bout. Et vous allez réaliser les 37. Et vous allez obtenir les deux clés pour pouvoir accéder au nirvana. C'est clair? Pardon? La compassion, c'est le résultat de notre éveil, de notre compréhension. Celle dont je viens de vous parler? Non. Pratiquez le miroir. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, répétez ce poème. Ce miroir de ma pleine conscience me reflète les quatre grands éléments. Il n'y a rien de plus beau qu'un cœur ouvert et un amour, quelque chose. Alors si chaque fois vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez comme les quatre grands éléments, vous venez de vous libérer de tous les maux. Essayez. Et vous ne pouvez pas faire autrement que Je vais m'en venir, mais rappelez-moi si à la fin je n'ai pas répondu à votre question. Est-ce que je fais les 50? Les trois autres sont les sensations, les objets de l'esprit et l'esprit. Alors donc on va arrêter et on poursuivra demain. Merci pour votre attention et bonne continuation de bonnes pratiques. En fait, vous avez tout ce qu'il faut pour pratiquer. Continuons de pratiquer la respiration et le silence. La première question que nous nous sommes posées est très importante. Quelles sont mes souffrances? De quoi je souffre? Et pour faire cela, nous devons être concentrés. Et c'est pour ça que respirer est la condition, la première condition. Être dans le silence, c'est la deuxième condition. Le parc est merveilleux, le soleil est là. Profitez du temps que vous avez pour pouvoir faire ce premier exercice. Et la pratique, c'est les deux poèmes, les deux vers. debout, en marchant, assis ou couché. L'esprit dans la pleine conscience. J'entre et je ressors, ou je sors et je rentre. Je souris et je ne parle pas. Dans une belle et noble attitude. Merci beaucoup.